avec Baptiste Gabory.
Bonjour Baptiste Gabory.
Bonjour Gaël, bonjour à tous.
J'espère que vous allez bien en ce vendredi. Comment ne pas commencer cette revue de presse sans paix, on va dire.
Le dessinateur français décédé hier à l'âge de 89 ans. Alors sans paix, c'est évidemment le petit Nicolas avec René Goscinny, mais c'est aussi une très longue histoire d'amour avec la presse. Ses premières planches sont publiées en 1950 dans Sud-Ouest, suivront Paris Match, L'Express, Le Figaro, Le Nouvel Observateur, Télérama, France Dimanche, Le JDD et Le New Yorker, le prestigieux magazine américain pour lequel il réalisera, tenez-vous bien, 112 couvertures.
Incroyable.
La première en 1978, on y voit un homme sur le rebord d'une fenêtre d'un building, prêt à prendre son envol. Presque un autoportrait, écrit Le Figaro sur son site. La première fois qu'il se rend au siège du magazine new-yorkais, c'est au début des années 80. Il racontera plus tard dans Le Nouvel Obs. Je me souviens, c'était en plein hiver, je n'avais pas de gants, pas de cache-nez, et pourtant j'ai traversé Central Park avec un bonheur extatique. J'avais presque 50 ans, je m'en serais donné 20. Pour la première fois de ma vie, j'existais.
Une apothéose, écrit toujours Le Figaro.
Comparable à la publication de son premier album de dessins humoristiques en 1962. 3 ans plus tôt, c'est la naissance du petit Nicolas dans Sud-Ouest Dimanche. Pourquoi Nicolas d'ailleurs ? Un jour, sur le flanc d'un autobus, j'ai aperçu une réclame pour les vins Nicolas. J'ai proposé ce nom à mon employeur qui trouva cela formidable. Sans paix, doux rêveur, discret jusqu'à l'effacement, selon le Figaro, attentif jusqu'à la rêverie, silencieux jusqu'à l'élégance. Francis Marmont, dans Le Monde, sur le site du journal encore, poursuit. Il est génial dans la satire, le saisie, le geste, l'attitude, l'instant, les vélos, le sourire, le chat et les musiciens. Son dernier dessin a été publié la semaine dernière dans Match. Il y croque un peintre en plein exercice dans un décor champêtre. Sempé avait écrit « Pense à ne pas m'oublier ».
Et une pensée pour ses proches ce matin, évidemment. Les incendies en Gironde dans vos journaux ce matin.
Et la lassitude des soldats du feu, malgré l'élan de solidarité des habitants, la fatigue devient intenable, raconte Juliette Chénion dans Le Figaro. Notre plus grosse nuit, c'était 5 heures de sommeil, confie ainsi un pompier de la Marne engagé depuis 5 jours. On a envie d'aller au feu, mais parfois le corps te dit d'arrêter. La chaleur, poursuit Le Figaro, épuise les troupes. Face à la lassitude et au gigantisme des flammes, les pompiers volontaires sont appelés en renfort, comme Alison. Elle est vendeuse dans un carrefour de Brive-la-Gaillarde. Elle part aujourd'hui en bus pour la Gironde avec 23 autres volontaires du département. Elle aurait dû partir en vacances. Aujourd'hui, c'est à lire dans Le Figaro toujours. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en a appelé cette semaine à la bonne volonté des entreprises privées. Mais ce n'est pas aussi simple, explique Le Parisien ce matin. Il y a en France près de 200 000 pompiers volontaires. Le problème, c'est qu'une partie ne sont pas formés à combattre les feux de forêt. La bonne volonté des entreprises, oui, mais les plus petites sont souvent dans l'impossibilité de libérer leurs salariés. Croyez-vous qu'un couvreur qui n'a que 2 salariés va lâcher son chantier, interroge ainsi un pompier, a fortiori au mois d'août, quand une partie des salariés est en congé, ajoute Le Figaro. Les PME craignent de laisser partir les pompiers volontaires. C'est à lire aussi dans La Croix ce matin.
Et sur place, les évacuations se poursuivent.
Convaincre les durs à fuir, reportage dans Libération ce matin à Saint-Magne, au cœur du massif des Landes. La difficulté ici est de quadriller la zone sans oublier personne. Au portail de la première maison visitée, une femme ouvre en tenue estivale, estomaquée par l'ordre pressant. Elle balbutie « Mais j'ai une jument ». Un peu plus loin, un homme rouge de colère, têtu. Il refuse de partir. La mère de Saint-Magne est elle aussi en colère. Elle a prévenu les autorités de l'arrivée du feu dès le lever du jour, mais les moyens aériens tardent à arriver. Soit on n'a pas assez de moyens, en rachetelle, soit on a des gens à la tête du commandement qui sont perdus.
Les incendies et la sécheresse qui rebat les cartes du tourisme.
C'est dans Les Échos ce matin, dans les gorges du Verdon. Le niveau de l'eau est exceptionnellement bas. La fréquentation a baissé de 10% au mois de juillet. Dans les Hautes-Alpes, où le niveau du lac de Serponçon est inférieur de 14 mètres par rapport à la normale, les professionnels accusent eux, entre 30 et 70% de perte de chiffre d'affaires. Le tourisme qui se met aussi au quota, c'est-à-dire dans Le Monde, reportage dans le parc national des Calanques, où il faut désormais réserver pour accéder à la Calanque de Sugiton. 400 places chaque jour, pas une de plus, pour protéger le site du surtourisme. La garrigue, les pins, les racines étaient piétinées jusque-là par des visiteurs trop nombreux.
Les va-t-en-guerre de Moscou à la une du Figaro.
Les faucons confisquent le pouvoir en Russie, explique le quotidien. Le 24 février 2022 n'aura pas seulement sonné le début de l'invasion en Ukraine, il aura aussi marqué la bascule du système russe dans une nouvelle ère. Le parti de la guerre se mobilise. Plus remarquable encore, la mutation en croisée anti-occidentale de l'ancien président Medvedev, jadis espoir des libéraux pro-occidentaux. Il multiplie désormais les tweets plus incendiaires les uns que les autres contre l'Occident. Un endoctrinement qui se déploie à l'école, poursuit le quotidien. Plusieurs matériels éducatifs ont été réalisés et transmis aux professeurs. On y trouve par exemple des vidéos avec une succession de photos de militaires tombés au combat. Dans les écoles, les événements de soutien à l'invasion se multiplient. Flash mob, mise en scène d'enfants rangés en forme de Z. Svetlana était professeure de langue russe dans la région de Smolensk. Elle a refusé de prendre part à ces événements. Menacée de poursuites, elle a quitté le pays. Une professeure d'anglais, elle, a été dénoncée par un de ses élèves. Elle critiquait le choix de la guerre. Elle vient d'être condamnée à 4 ans de prison avec sursis et une interdiction d'exercer pendant 3 ans. Dans Le Monde, l'interview de l'opposant russe Ilya Yashin illustre cette radicalisation du pouvoir russe. C'est à la une du quotidien du soir. Ilya Yashin, arrêté à Moscou fin juin, après s'être engagé contre la guerre en Ukraine, il répond depuis sa prison moscovite. Mon peuple est devenu victime de la politique du Kremlin. Une partie a été triomphée par la propagande. Certains ont été intimidés, d'autres encore réprimés. Malgré cette peur, poursuit-il, la majorité des jeunes ne soutiennent pas l'agression de Poutine contre l'Ukraine.
On va terminer avec un peu plus de légèreté.
Et le boom des retraites spirituelles. Nouvel épisode de la série du Monde consacrée aux néo-vacanciers. Imprégnez-vous de la sensation que vous procure la musique et laissez-vous porter. Soyez ici et maintenant, intime ainsi une professeure de yoga dans ce cours de danse intuitive. Retraite yoga et méditation au cœur de la Provence. Les retraites se multiplient avec souvent un public jeune, urbain et diplômé. L'envie de savoir dire stop, la recherche d'une sobriété. Un trentenaire charpentier en Haute-Savoie dit avoir pris une claque lors de l'atelier méditation animale, technique dite thérapeutique au contact des ânes. Même les agences de voyage s'y mettent. Le renouveau du New Age. Voilà une idée pour vos prochaines vacances, mon cher Gaël.
Mais on part ensemble, Baptiste Gabory, au contact des ânes, voilà. Très rapidement.
Méditation animale.
On vous retrouve pour la revue de presse la semaine prochaine.
Oui, je serai là.
Avec plaisir.
Bon
Il est
week-end.
8h, à vous aussi. Il est 8h40.